Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la philosophie aura-t-elle sa place au lycée ? Vous avez aimé Parcoursup ? La suite s'annonce intéressante. Le baccalauréat va changer en 2021. Un changement qui s'accompagne d'une réforme des enseignements au lycée. Les séries ES, S et L vont disparaître dans le général au profit d'un tronc commun assorti d'une douzaine de spécialités proposées à la carte. Parmi les disciplines qui semblent plutôt bien s'en sortir, il y a la philosophie. Elle devient la seule matière universelle au baccalauréat, et ce sur la base d'un enseignement de 4 heures hebdomadaires pour tous. En terminale, enfin pour tous, à ceci près que ce n'est pas un détail que l'universel s'arrête aux portes des lycées pro. On la retrouve par ailleurs, cette philosophie en classe de première, dans une des spécialités proposées, en l'occurrence humanité, littérature et philosophie. Alors on imagine a priori l'enthousiasme des profs de philo, sauf que non, pas d'enthousiasme, mais une grosse inquiétude. Des tribunes, une pétition en témoigne. Elle dénonce entre autres le fait que l'épreuve de philo soit positionnée après les procédures d'admission dans le supérieur, donc dévalorisée, ou encore le fait que la spécificité de cette discipline soit diluée dans son association avec la littérature. Alors la philosophie aura-t-elle sa place au lycée ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Nicolas Franck, bonsoir.
Bonsoir avec Arlette.
Vous êtes agrégé de philo, vous enseignez dans un lycée de Neuilly-sur-Seine. Oui. C'est en banlieue parisienne, en grande banlieue, non, banlieue parisienne.
Proche banlieue.
Pourquoi dire grande banlieue ? Et vous présidez l'APEP, l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public, qui est une des organisations des professeurs de philo qui regroupe, j'ai lu, environ 15% des enseignants en philosophie.
C'est cela.
Pour discuter avec vous, une autre agrégée de philosophie, Marilyn Maizeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez enseigné, vous, la philo pendant un an à l'Université de Nice. Vous enseignez aujourd'hui en lycée général. Et vous avez publié cette année, c'était en début d'année aux éditions de l'Observatoire, Les conspirateurs du silence. Et puis notre troisième invité, il est en duplex des studios de France Bleu à Lille. Il s'agit de Pierre Mathieu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po Lille, sciences politiques que vous avez dirigé autrefois, et vous avez été le responsable de la mission Baccalauréat 2021, un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles, ça c'était l'intitulé. Vous avez remis un rapport en janvier dernier à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'est beaucoup inspiré justement de ce rapport, une fois n'est pas coutume, pour mener sa réforme et du bac et des enseignements qui sont dispensés au lycée. Alors, pour commencer, je vous propose peut-être d'essayer d'agir avec méthode. Le sujet s'y prête, et de nous intéresser d'abord à la présence de la philosophie dans l'épreuve du baccalauréat. La philo qui se retrouve comme seule épreuve universelle, disons. Alors, il y a l'oral, terminal, et puis il y a la philosophie qui seront des épreuves communes à l'ensemble des lycéens de terminale en filière générale et techno. Est-ce que c'est une façon pour vous trois de reconnaître à la philo une place à part et peut-être une place, comment dire, de la distinguer de manière très positive par rapport aux autres disciplines ? Nicolas Franck.
Écoutez, vous avez dit dans votre propos introductif que la philosophie devenait une épreuve universelle ou une discipline universelle. L'épreuve universelle, c'est un slogan du ministère parce que elle ne devient rien de tel, elle l'était déjà. Au sens où tous les élèves passaient déjà une épreuve de philosophie au mois de juin pour le baccalauréat, les élèves des lycées généraux et technologiques.
Alors donc, ce sont d'autres disciplines qui le sont moins.
Il n'y a rien de nouveau.
Voilà. Ce qui fait ressortir la philosophie.
C'est une manière de présenter en permanence les choses. Nous ne gagnons rien. Nous perdons beaucoup, mais comme en apparence, comme les autres disciplines perdent, évidemment, par contraste, on peut croire que la philosophie est magnifiée par la réforme.
Est-ce que ce qualificatif d'universel, d'ailleurs, faisait partie de votre rapport, Pierre Mathieu, pour la place de la philosophie dans l'épreuve du bac ?
Je me souviens plus, en réalité, mais effectivement, comme ça vient d'être dit, il y a bien sûr du storytelling, comme on dit en bon français, de la part du ministère, consistant à dire que la philosophie reste parmi les matières classiques, anciennes du lycée, celle qui sera passée par l'ensemble des élèves, et ce faisant, bien sûr, reste aussi une discipline du tronc commun de la classe de terminale. C'est la seule, donc quelque part quand même, c'est important, et moi, dans mon esprit, dès le départ d'ailleurs de la mission, j'avais en tête que la philosophie, parmi les quatre épreuves finales que les élèves seraient amenés à passer en terminale, que la philosophie avait vocation à être l'une des quatre, de façon indiscutable, pour beaucoup de raisons sur lesquelles on pourra revenir plus tard.
Marilyn Maizeau.
On parle de place spécifique qui sera accordée à la philosophie par le choix de la laisser donc parmi les épreuves terminales au baccalauréat. Pour moi, si place spéciale il y a, c'est juste une place spéciale symbolique. En fait, symboliquement, c'est vrai que en apparence, laisser la philosophie comme épreuve terminale au baccalauréat, ça peut donner l'impression qu'on lui donne une place plus importante qu'aux autres matières. Après, dans les faits, il faut voir comment ça s'articule à la manière dont on l'enseigne pendant l'année. Et de ce point de vue-là, je suis pas particulièrement convaincue qu'elle se taille la part du lion.
Alors ça va d'ailleurs être le gros de notre discussion ce soir, évidemment, hein, ce sera la façon dont on l'enseigne et ce que l'on enseigne hein, quand on enseigne la philosophie. Mais pour continuer encore peut-être sur cette dimension d'universalité, j'évoquais aussi en début d'émission que cette universalité s'arrêtait aux portes de l'enseignement professionnel. Nicolas Franck, pourquoi est-ce que la philo n'est pas enseignée en filière pro? Est-ce que c'est parce que le temps n'est pas extensible et qu'on ne peut pas mettre de la philo? Est-ce que c'est parce qu'on considère qu'il faut réserver ça, disons, aux intellos?
Alors, je reviens juste sur une chose à propos de l'épreuve universelle, très brièvement. La philosophie a un coefficient en baisse par rapport à ce qu'elle avait avant, d'une part, et d'autre part, elle sera passée 6 semaines après les épreuves de spécialité.
On va y revenir, ça, vous inquiétez D'accord. pas, sur le calendrier, alors, mais là, prenons les choses les unes après les autres.
Sur la philosophie de l'enseignement professionnel, oui, c'est très regrettable. Il faudrait qu'il y ait un enseignement de la philosophie dans les lycées professionnels. Il faudrait qu'il y ait l'ouverture d'un concours, puisque les professeurs des matières générales sont dans l'enseignement professionnel bivalent. Il faudrait qu'il y ait l'ouverture d'un concours, ce que le ministère se refuse à faire. Et manifestement, les choses ne vont pas dans le bon sens, puisque le temps qui est accordé, le volume horaire accordé aux matières générales dans la réforme actuelle de l'enseignement professionnel est en baisse.
Ça faisait partie des éléments de réflexion de votre mission, Pierre Mathiot, ou est-ce que vous étiez uniquement sur la question du baccalauréat général et technologique?
Ben voilà, vous venez de le dire. Le bac professionnel ne relevait pas de mes attributions dans le cadre de cette mission. Alors c'est vrai qu'on avait un petit peu échangé avec les collègues qui étaient en charge de la mission sur le bac pro. Moi, à titre personnel, je trouverais très très bien que les élèves de bac pro puissent suivre un petit peu de philosophie dans le cadre de leur cursus. Ça vient d'être dit un petit peu, ça pose deux soucis. C'est où pouvons-nous, entre guillemets, trouver de la place, c'est pas péjoratif, pour proposer un enseignement de philosophie. Hein. Les élèves ont déjà des emplois du temps qui sont assez chargés, même si, ça vient d'être dit aussi, les matières, disons, générales vont être en baisse par rapport aux matières plus professionnelles. Puis aussi, ça a été dit également, donc je ne fais que répéter, il y a des problématiques de vivier d'enseignants. C'est vrai qu'on pourrait, en théorie, organiser des concours de recrutement à destination, disons, d'un nombre plus important de collègues professeurs de philosophie. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des problèmes de vivier de candidats sur ce type de poste. Puis il faudrait aussi décider d'une bivalence en lycée professionnel, la philosophie avec quel autre type de discipline. Donc ça supposerait une réflexion qui de toute façon ne se trancherait pas en quelques semaines ou en quelques mois.
Marilyn Maïso, en quoi ce serait intéressant ou inintéressant d'avoir un enseignement en philosophie dans la filière professionnelle?
Bien, déjà, je sais qu'il y a, comme ça a été évoqué, un certain nombre de questions techniques qui se posent pour élargir l'enseignement de la philosophie aux filières professionnelles. Simplement, ce que je remarque, c'est que très concrètement, derrière ça, il y a quand même une vision des choses où on sépare la théorie de la pratique. On considère que certaines matières sont essentiellement certaines filières sont essentiellement des filières manuelles et que de ce point de vue-là, la philosophie ne serait pas forcément d'une utilité immédiate pour ces filières.
Est-ce que vous dites le contraire, justement? Et oui. En quoi ça serait utile?
Tout simplement, je parle d'expérience. L'année dernière, j'enseignais dans les Landes et il se trouve que dans ma classe, j'avais régulièrement des élèves de filières professionnelles qui venaient assister à mes cours de philo pendant leurs heures de trou. Ils venaient sur leur temps libre, donc c'est pas quelque chose qui leur était imposé, et je me suis rendu compte que, à travers la manière dont ils posaient, enfin, à travers les questions qu'ils posaient, la manière dont ils pensaient leur propre cursus, en essayant de l'intégrer à ce qui se faisait en cours, il y avait une vraie demande.
Si j'insiste d'ailleurs un peu sur ce point, Nicolas Franck, c'est parce que ça donne aussi du coup l'impression que la philosophie, ça n'est pas pour tout le monde, ça n'est pas accessible à tout le monde finalement, le fait qu'elle ne se retrouve pas dans toutes les filières.
Alors, il faut pas non plus se mentir, je veux dire, il y a des... Pour que l'enseignement de la philosophie se passe dans de bonnes conditions, il faut aussi qu'il y ait une maîtrise de la langue. Alors que la philosophie contribue à permettre d'acquérir, mais il y a quand même un minimum, et on sait très bien qu'il y a dans les lycées professionnels sur ce point de grandes difficultés. Donc bon, on peut pas faire comme si. Ça supposerait qu'il y ait une réflexion d'ensemble sur la nature de cet enseignement et aussi sur l'évaluation qui serait faite des élèves, puisque L'idéal serait peut-être un oral, mais le ministère trouve que ça coûte beaucoup trop cher, que c'est très compliqué à organiser. Enfin bref, il y a quantité d'obstacles matériels que l'on rencontre aussi.
Alors, fin de cette parenthèse sur la question du bac pro, à laquelle d'ailleurs on avait consacré une émission spécifique. Je vous y renvoie pour la réécoute sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Et vous évoquiez tout à l'heure, Nicolas Franck, donc cette question du calendrier. Alors, aujourd'hui, l'épreuve de philosophie au baccalauréat, en terminale, c'est la première dans le calendrier. Qu'est-ce qui va se passer avec la réforme du bac et en quoi c'est quelque chose qui, manifestement, vous pose problème dans l'organisation que vous présidez ?
Alors, la philosophie interviendra à la fin du mois de juin, du moins c'est ce que les textes annoncent, à la fin du mois de juin, et les épreuves de spécialité auront eu lieu au mois de mai. Alors, les épreuves de spécialité, ça représente ces deux épreuves, puisque les élèves choisiront donc trois spécialités en première, ils en abandonneront une, et ils n'en conserveront que deux en terminale. Et il y aura, ils passeront au mois de mai, pardon, ces deux épreuves de spécialité, qui représentent un tiers de leur bac. Et ensuite, il y aura six semaines de latence, pendant lesquelles ils n'auront rien à faire du point de vue du bac, sinon préparer l'épreuve de philosophie et leur oral. Bon, les proviseurs avec qui on en discute s'attendent à un absentéisme massif. Mais en fait, le problème du calendrier est un problème qui est plus général, puisque il y aura une partie du baccalauréat qui sera terminée, celle qui est en contrôle continu, qui sera terminée au mois de février.
Et puis Marilyn Maizeau, il y aura aussi le fait que l'orientation post-bac sera là aussi, si ce n'est terminé, en tout cas bien avancé. C'est-à-dire la décision d'orientation, elle se fera avant que cette épreuve ait eu lieu.
Bien sûr, avec Parcoursup en particulier, ça sera décidé bien avant. Et du coup, l'évidence, c'est que les résultats à l'épreuve de philosophie ne seront pas pris en compte dans cette orientation. Donc.
C'est ce que disent d'ailleurs des professeurs de philo. Il y a eu une lettre ouverte qui a été publiée, qui a été adressée à Jean-Michel Blanquer en mai dernier, 120 professeurs de philo, qui disaient notamment ceci du fait de ce calendrier particulier. Loin d'être renforcée, la philosophie est bel et bien marginalisée par un tel dispositif où elle devient une épreuve sans réel enjeu. Que répondez-vous à ça, Pierre Mathiot ?
Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense que si on avait décidé, ou s'il avait été décidé par le ministre que l'épreuve de philosophie était passée au retour des vacances de Pâques comme les deux épreuves de spécialité, mes collègues philosophes présents auprès de vous auraient évidemment hurlé en disant qu'il allait manquer 5 ou 6 semaines de préparation des épreuves de philosophie. Et puis qu'après, évidemment, les élèves auraient encore moins intérêt à aller au lycée. Donc il faut bien trouver des dates pour passer ce type d'épreuve. La date qui va probablement être retenue, c'est au fond la date actuelle du bac de philo. Alors, on va voir ce qui va se passer en 2021. Moi, l'hypothèse que je fais, c'est que... Alors, j'ajoute bien sûr au passage que dans le système actuel, la note obtenue en philosophie au baccalauréat ne compte strictement pour rien dans Parcoursup, puisque aucune des notes du baccalauréat aujourd'hui ne compte dans Parcoursup. Donc ça, s'agissant de la philosophie, ça change rien à la situation actuelle. Moi, mon hypothèse, mais après, ça va évidemment dépendre de ce qui va se passer concrètement dans les lycées, c'est qu'à partir du moment où les élèves auront passé leurs deux épreuves de spécialité, donc autour du 10-15 mai à peu près, c'est-à-dire un mois en gros avant l'épreuve de philo et l'épreuve du grand oral, l'hypothèse c'est que l'épreuve de philo à ce moment-là vont avoir un peu plus de temps, je l'espère, pour pouvoir mieux préparer leurs élèves à l'épreuve de philosophie, éventuellement les préparer aussi au grand oral, si parmi les élèves il y en a certains qui veulent faire quelque chose autour de la philosophie à l'épreuve du grand oral.
Oui, mais ce que nous dit Nicolas Franck, c'est qu'il y a un risque d'absentéisme accru du fait qu'il ne restera plus que la philosophie à ce moment-là.
D'abord, dans le système actuel, ne nous leurrons pas, l'absentéisme est massif. À partir du moment où les bulletins, enfin où les conseils de classe de terminale se sont passés en mai, il faut arrêter de se leurrer. Les professeurs le reconnaissent tous. Les élèves ne viennent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de bachoter les 7, 8, 9 épreuves qui doivent passer à la queue leu-leu au mois de juin. Là encore, on va voir. Une des hypothèses, enfin ce qu'on a tenté de faire et mes collègues présents près de vous le savent, c'est que les bulletins de première et de terminale vont compter, certes très marginalement, mais vont compter dans le calcul final du bac, dont le bulletin du dernier trimestre de terminale. Donc ça veut dire que si des élèves sont absentéistes massivement, ils risquent de le payer relativement cher dans le bulletin du dernier trimestre de terminale. Ça peut avoir des effets, par exemple, sur l'avis favorable donné par le conseil de classe pour les élèves qui iraient au rattrapage. Voilà, donc on va voir. Mais moi, je pense que ce que je viens de vous dire là est de nature à sécuriser relativement l'assiduité des élèves après les épreuves du mois de mai. Mais je vous avoue que je ne sais pas, empiriquement bien sûr, ce qui va se passer.
Marilyn Maizeau.
C'est plutôt mon collègue qui bondissait, qui avait envie de répondre quelque chose.
Donc... Oui, mais il va répondre juste après vous, vous inquiétez pas. D'un point de vue empirique, justement, est-ce que vous constatez le fait que, bah, justement, en étant enseignante en lycée, il peut y avoir ces périodes un petit peu molles, disons, de fin d'année, qui font que la philo, mais pas seulement la philo, sont un petit peu, comment dire, laissées de côté par les élèves parce qu'ils ont déjà reçu leur bulletin?
Ah oui, je veux dire, même si de fait les élèves viennent, parce que, admettons que certains aient peur d'être pénalisés parce qu'ils ne viennent pas, qu'ils viennent quand même, c'est pas parce qu'ils sont en classe que forcément ils seront attentifs et qu'ils seront dans l'optique de préparer l'épreuve. Moi, je le vois à la fin de l'année, je pense que mon collègue pourra dire la même chose. En fin d'année, la motivation et l'attention diminuent fortement.
Nicolas Franck.
Oui, alors pour ce que disait, enfin je voudrais répondre à Pierre Mathieu, est-ce que il disait que les bulletins du troisième trimestre vont être pris en compte pour le baccalauréat? Bon, soyons clairs, dans la réforme, il y a 10% du baccalauréat les bulletins des six trimestres de première et terminale, puisque le baccalauréat s'étend sur deux années maintenant, les six trimestres de première et terminale sont pris en compte pour 10%. Ça veut dire, si je ne me trompe pas, que chaque trimestre représente 1,6%. Donc le bulletin du troisième trimestre représentera 1,6% du baccalauréat pour les élèves. Franchement, je ne connais pas d'élèves qui y trouvera une motivation suffisante pour venir en cours. Voilà, de même que les 8% de l'épreuve de philosophie me semblent pas non plus une motivation suffisante pour venir en cours.
Sauf que la motivation, elle peut venir aussi de la qualité de l'enseignement qui va être dispensé. Nicolas Franck, et au-delà justement de la sanction, enfin la sanction entre guillemets, c'est-à-dire le diplôme qui sanctionne justement la fin d'un cursus, qui est le plus intéressant, me semble-t-il. Enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est quand même le contenu de l'enseignement et la qualité de cet enseignement. Il faut déjà dire quand même qu'à travers cette réforme du bac et cette réforme du lycée, la philosophie reste, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays en Europe par exemple, un enseignement obligatoire. Donc là, il y a quand même déjà une sécurisation de cette discipline, non Marilyn Maizeau?
C'est sûr que de ce point de vue-là, on peut considérer qu'il y a quand même une forme de sécurisation au sens où elle disparaît pas. Après, la question, ça va être de savoir ce que concrètement, en fonction du programme qui va nous être donné, en fonction du nombre de notions, en fonction des enseignements obligatoires qui vont nous être proposés, de savoir concrètement quelles sont les conditions dont on disposera pour pouvoir l'enseigner. Parce que dans l'absolu, en théorie, c'est sûr que l'idée de se dire qu'on va avoir 4 heures, qu'on va pouvoir enseigner la philosophie, c'est merveilleux. Après, dans les faits, en fonction du programme, c'est déjà un problème maintenant. Reste à savoir si c'est réalisable.
4 heures de philosophie par semaine, oui, pour tous. Hein, dans le général et dans la filière technologique, hein, oui. si j'ai bien suivi. Alors là, ça abolit certaines disparités qui pouvaient exister entre les différentes séries. Nicolas Franck, 4 heures pour tous, est-ce que ça vous semble une bonne chose? C'est une façon justement de démocratiser peut-être cette discipline que de l'enseigner de la même manière à tous les élèves.
Mais 4 heures pour tous, il n'y a rien de nouveau. En terminale ES, ils avaient 4 heures. En terminale S, il y a quelques années, ils avaient 4 heures. On a perdu une heure. On vient de nous rendre cette heure qui avait été perdue il y a quelques années. Et puis, il y a la disparition des 8 heures en terminale L qui ne seront, mais je suppose qu'on va en parler, absolument pas remplacées par la spécialité qui s'appelle Humanité, Littérature, Philosophie, que les élèves pourront en effet choisir à partir de la première.
4 heures pour tous. Pour quelle raison d'ailleurs, Pierre Mathieu, dans cette réforme?
Alors pour tous, parce que je pense qu'il y avait quand même la préoccupation que l'ensemble des élèves de bac général technologique soient traités de la même manière s'agissant du volume horaire de philo. Ensuite, le volume 4 heures, je ne vais pas dire que c'est les calculs d'apothicaire, hein, mais il va de soi qu'il faut... Parce que là, on est en train de parler de la philosophie comme si la philosophie était la seule matière qui était enseignée aux lycéens. Il y a aussi des matières autour, hein. Les lycéens ne sont pas là que pour faire de la philosophie, donc ça veut dire qu'il y a aussi...
Donc il y a des emplois du temps qu'il faut composer, voilà. Le temps n'est pas extensible.
Oui, il y a des volumes horaires, vous savez, dans la réforme, moi par exemple, le projet que j'avais, et comment dire, Nicolas Franck le sait bien, parce qu'on s'était vu dans le cadre de cette mission, moi j'avais fait des propositions qui n'ont pas été toutes retenues par le ministre, notamment s'agissant de la présence de la philosophie dès la classe de première, de façon plus spécifique que ça n'est le cas dans la réforme qui a été actée par le ministre. Donc évidemment, il y avait d'autres enjeux, d'autres impératifs, parce qu'il y a aussi, il faut le dire très concrètement, des enjeux d'équilibre entre disciplines, parce que l'objectif quand même du lycée, au moins du lycée général, hein, c'est que les élèves qui vont sortir avec le baccalauréat général aient une forme de culture commune qui n'est pas constituée que par la philosophie. Et quand vous dites aux collègues, bah, tiens, on va mettre 5 heures de philosophie pour l'ensemble des élèves, voire 6 heures de philosophie par semaine pour l'ensemble des élèves, il va de soi que ça se ferait nécessairement au détriment d'autres disciplines, le PS, les langues 1 et 2, l'histoire-géographie, etc. Et que ce faisant, d'autres disciplines... se trouveraient lésés et expliqueraient qu'à leur tour, la promesse républicaine ou le roman national ne pourraient plus être enseignés à la hauteur des enjeux. Vous voyez, donc il faut quand même avoir en tête qu'on est dans une recherche d'équilibre entre des disciplines, je l'espère, dans l'intérêt des élèves. Ce qui, je précise aussi, parce que Marine Maizot l'a évoqué, ça renvoie aussi bien sûr au programme, au réalisme des programmes, parce que là aussi, dans les auditions que j'ai menées, ce qui était intéressant, c'est que pas d'ailleurs que en philosophie, les collègues qu'on avait en face de nous expliquaient d'un côté qu'il fallait être, disons, réaliste sur les programmes, c'est-à-dire proposer l'acquisition de notions qui soient accessibles aux élèves, et puis en même temps, quand on leur demandait de commencer à faire des propositions de notions, on allait vers un nombre extrêmement important de notions avec une difficulté à renoncer à enseigner telle ou telle notion, parce qu'évidemment les profs ont envie d'enseigner l'entièreté de leur discipline.
Marilyn Maizot.
Alors, j'estime qu'il ne faut pas transformer ce débat autour de la réforme en querelle de chapelle où chacun essaierait de récupérer pour sa discipline la meilleure part du gâteau. En réalité, c'est vrai que là, la discussion telle qu'on vient de la mener peut donner l'impression qu'on cherche à tout prix à récupérer un maximum d'heures pour la philosophie en se moquant éperdument de ce que les collègues garderont. Il ne faut quand même pas oublier aussi que la philosophie, dans l'état actuel des choses, c'est la seule discipline qui commence en terminale. Parce que c'est vrai, quand on dit on a 8 heures de philosophie d'un coup en L, c'est quand même énorme. Oui, sauf qu'on n'en a pas eu avant. Quand on compare ça, par exemple, à l'histoire, aux sciences, à la littérature, aux langues, ils en font depuis le collège, voire au-delà, pour ce qui est de l'histoire et du français. Donc le problème, en fait, c'est que si la philosophie commençait plus tôt, et par plus tôt, j'entends par exemple dès la seconde, et qu'on ait eu des années de philosophie tout au long du lycée, alors effectivement, le fait de ne plus en avoir 8 heures pour les L en terminale ne me poserait pas un problème. Au contraire, je serais plutôt ravie de ne pas avoir 8 heures d'un coup, mais d'en avoir plus depuis la seconde.
Mais alors cela dit justement, Marilyn Maizot, et là, on va passer à l'étape suivante, à la question de ces spécialités. Les élèves vont avoir la possibilité de démarrer la philosophie dès la classe de première, avec cette catégorie humanité, littérature et philosophie qui fait partie de la douzaine de spécialités que pourront choisir les élèves, à condition que cette catégorie soit disponible soit dans l'établissement dans lequel ils étudient, soit accessible dans un périmètre raisonnable, pour reprendre les termes du ministère. Et a priori, humanité, littérature et philosophie sera forcément dans un périmètre raisonnable. Est-ce que ça, c'est la bonne façon justement de faire, c'est-à-dire de permettre aux élèves qu'ils souhaitent, ça ne sera pas obligatoire, mais aux élèves qu'ils souhaitent, de s'initier à la philosophie dès la classe de première, Marilyn Maizot? Et je poserai évidemment la même question à nos deux autres invités.
Alors, premièrement, comme vous l'avez dit, il est question de périmètre, et en théorie, ça a l'air d'être bien organisé. Dans les faits, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'effectivement, cette option sera disponible pour tous les élèves qui voudraient s'y essayer? C'est pas certain. Deuxièmement, comme vous venez de le rappeler, ce sera une option sur une matière qu'ils n'auront jamais faite avant. Donc, quand on ne sait pas exactement ce qu'est la philosophie, il faudrait quand même se poser la question de savoir comment on va la rendre attractive pour des élèves qui ne savent pas ce que c'est, s'il n'y a pas eu d'initiation avant, puisqu'il y a déjà eu des formes d'initiation en première dans certains établissements, justement pour que les élèves comprennent ce que c'était. Là, dans la mesure où c'est une option, ça serait peut-être encore plus nécessaire. Ensuite, autre problème, c'est que cette option littérature, histoire et philosophie, en réalité,
littérature,
philosophie, ce sera donc un cours hybride dont on ne sait pas exactement en quoi il va consister et dont en tout cas on ne peut pas douter, je pense, qu'il ne s'agira pas de cours de philosophie proprement dit. On pourra inculquer un certain nombre d'enseignements nécessaires à la philosophie sur notamment les épreuves qui auront lieu au baccalauréat. Et par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la première, avec cet enseignement dont on ne sait pas exactement encore en quoi il consistera et qui sera limité quand même d'un point de vue philosophique, les élèves devront se décider pour choisir une majeure ou une mineure en philosophie qu'ils prendraient en terminale. Je pose la question, combien d'élèves, après simplement cet enseignement pluridisciplinaire en première, pourront se décider à prendre une majeure ou une mineure qui déterminera ensuite une épreuve au baccalauréat? Je suis pas...
Alors ça, effectivement, c'est difficile à savoir. Est-ce que vous partagez le point de vue de Marilyn Maizot, Nicolas Franck, et
Je souhaite pas davantage de 4 heures entre on commence. C'était pas du tout ça la question. La question, c'est la disparition des 8 heures en terminale L. Pourquoi? Parce que la philosophie se retrouve dans la réforme comme étant la seule discipline qui ne peut pas avoir la possibilité d'un enseignement approfondi. Toutes les autres disciplines ont un enseignement approfondi. La philosophie n'en a pas. Or,
elle pourra en avoir justement avec cette spécialité.
Non. elle pourra pas en avoir parce que cette spécialité, ce n'est pas de la philosophie. Ça s'appelle humanité, littérature et philosophie. Et ça ressemble à de la culture générale et pas à de la philosophie. C'est normal, on comprend très bien. Il fallait introduire une spécialité en première pour des élèves qui en terminale vont recommencer puisqu'ils seront mélangés avec des élèves qui découvriront la philosophie, recommencer à découvrir la philosophie. Donc il fallait faire autre chose que de la philosophie. Donc ça a été la création de cette spécialité humanité littérature philosophie dans laquelle donc alors le programme pour l'instant on n'est pas très sûr du programme, c'est une sorte de table des matières qui circule. C'est de la culture générale, ce sont des objets thématiques historiquement présentés et qui n'offre absolument aucune garantie qu'il y ait une substance philosophique.
Juste pour qu'on comprenne bien, Nicolas Franck, s'il y avait eu une spécialité qui s'était intitulée exclusivement philosophie, là, ça vous aurait convenu, c'est-à-dire d'avoir ce tronc commun de 4 heures, et puis ensuite, au choix, une spécialité qui ne concerne que la philosophie. Ça aurait été mieux, en tout cas.
Ça n'aurait pas été réaliste, ça aurait fait 10 heures de philosophie en terminale et 8 heures en première, puisque c'est le volume horaire des spécialités. Ça n'aurait pas été choisi par les élèves, on le sait très bien, puisqu'ils vont pas s'engager dans une discipline qu'ils ne connaissent pas avec un volume horaire aussi important. Voilà. Donc le problème actuel qu'on a, c'est je spécule pas sur d'autres choses. Vraiment le problème qu'on a avec cette spécialité, c'est que les horaires sont pas définis. Je veux dire, on ne sait pas combien d'heures feront les profs de français et les profs de philosophie à l'intérieur de cette spécialité. Ce qui veut dire donc qu'il y a des élèves qui seront préparés à une épreuve du baccalauréat ou à une partie de philosophie, une partie de lettres. C'est déjà bizarre. Et certains auront eu 4 heures de philo en terminale, d'autres seulement 2 pour préparer la même épreuve.
C'est vrai, cela dit Pierre Mathieu, qu'avoir une spécialité qui s'intitule Humanité, Littérature et Philosophie, il y a un petit côté oxymore, c'est-à-dire comment une spécialité peut être aussi peut intégrer des disciplines aussi variées a priori.
Il n'y a que deux disciplines, hein. Il n'y en a pas 15 000. Il y a les lettres classiques, on va dire, pour aller vite, et la philosophie. Mais avant cela, juste un petit mot. Le débat qu'on a commencé à esquisser juste avant, que vous avez commencé à esquisser, c'est la dimension, la philosophie comme discipline fondamentale commençant en terminale. Dans les auditions que j'ai menées il y a un an, à peu près, il y a trois associations de professeurs de philosophie de l'enseignement secondaire qui existent. Et force est de constater, parce que moi, franchement, j'étais totalement agnostique par rapport à cette question au démarrage, et les trois associations sont pas d'accord. L'une d'entre elles défend l'idée que la philosophie doit commencer en terminale et ne veut pas bouger de cela. Une autre propose que ça commence en maternelle et une autre était plus hésitante. Donc il fallait trouver une espèce de point d'équilibre. Moi, à titre personnel, j'avais défendu l'idée que la philosophie puisse être proposée dès la classe de première, malgré les problèmes de ressources humaines que cela posait en termes de vivier d'enseignants de philosophie. Voilà, moi, je trouvais que c'était quelque chose d'assez acceptable. Bon, c'est pas exactement ça qui a été retenu, même si je suis parfaitement bien sûr solidaire de la réforme. Moi, je répondrais de la manière suivante à ce qui a été dit. D'abord, alors évidemment, là cette année, l'année de seconde est une année un petit peu de mise en route, donc il est clair que les choses ne sont pas complètement déterminées. Mais rien n'empêchera dans un lycée où les choses se passent correctement un professeur de philosophie, dans le cadre des 54 heures en seconde sur l'orientation et l'accompagnement, d'avoir du temps pour présenter aux élèves de seconde ce qui pourrait être proposé dans cette fameuse spécialité humanité, philosophie et littérature. Rien ne les empêchera de le faire, hein, et peut-être de séduire des élèves à ce moment-là, première remarque. Deuxième remarque, l'histoire-géographie non plus ne dispose pas d'une spécialité en propre, puisque l'histoire-géographie, finalement, va rencontrer les mêmes enjeux que ceux qui ont été indiqués tout à l'heure, puisque l'histoire-géographie va, on va dire, partager une spécialité avec les collègues de sciences économiques et sociales. Donc, il va de soi, une fois que j'ai dit cela, que c'est une forme de pari de proposer des spécialités qui combinent, qui associent deux disciplines qui sont par ailleurs des disciplines relativement importantes du lycée, en l'occurrence les lettres classiques et la philosophie. Moi, quand Nicolas Franck disait juste avant que le programme qui se dessinait, que j'avoue je ne connais pas du tout, hein, le programme qui se dessinait était un programme de culture générale mobilisant ici ou là des concepts de philosophie. Alors moi je suis pas philosophe, j'enseigne pas la philosophie, mais j'aurais tendance à dire que après tout pourquoi pas qu'aujourd'hui on puisse amener des élèves à la réflexion philosophique et à l'intérêt pour la discipline philosophique par des questions d'actualité ou des questions de culture générale qui permettent aux collègues, aux enseignants de remonter entre guillemets vers les auteurs, vers les concepts, vers les notions. Moi après je dis peut-être des bêtises en vous disant cela, mais je pense que ça peut être une manière d'intéresser des élèves à cela. J'ajoute sur le lien avec les lettres classiques, que quand même le berceau de la philosophie c'est la Grèce, c'est aussi la Rome, la République romaine, et que donc lier ces deux disciplines, faire travailler après tout que des professeurs de lettres classiques fassent travailler leurs auteurs, leurs élèves sur le grec, sur les œuvres de Platon, et que en parallèle le professeur de philosophie propose une analyse des textes de Platon, moi ça me semble avoir du sens. Après, ce qui est clair, c'est que ça remet en cause très clairement ce principe quand même très installé dans le lycée français de la monovalence et de l'isolement disciplinaire.
Alors justement, j'allais venir là-dessus, Pierre Mathieu, et je voulais faire réagir Nicolas Franck sur ce sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas à la fois effectivement un conservatisme du côté des enseignants, notamment de philosophie, mais peut-être qu'on peut retrouver d'ailleurs les mêmes réticences du côté des enseignants de lettres, que de se mélanger avec une autre discipline que la leur? Et est-ce que en soi, comme le disait Pierre Mathieu, est-ce qu'il n'y a pas quand même des liens qui sont des liens assez forts entre ces deux disciplines, ou bien est-ce que vous diriez que leur nature est trop différente pour les inclure dans une même spécialité?
Alors, c'est une confusion. Cette association est une confusion. Pourquoi? Parce que les élèves découvrent la philosophie en même temps, enfin, dans cette association avec les lettres. Et donc, si vous voulez, ça peut avoir un sens pour les lettres, puisque les élèves font ça depuis toujours, étudient le français depuis toujours. Et par conséquent, il peut y avoir une spécialisation envisageable pour les lettres. Pour la philosophie, ils devront se spécialiser avant de faire de la philosophie. Et je suis...
Donc il risque d'avoir une vision de la philosophie qui est une vision littéraire ou trop littéraire, c'est ça ?
C'est pas très littéraire ou trop littéraire, c'est une vision qui est tronquée. Et je reviens sur ce que disait Pierre Mathieu il y a un instant. Je vois pas pourquoi il faudrait partir de la culture générale pour faire de la philosophie. On peut partir de la philosophie pour faire de la philosophie. Je veux dire, les problèmes philosophiques en eux-mêmes sont intéressants, intéressent les élèves. Enfin, il suffit de voir, intéressent la société en général. Il suffit de voir le succès des sujets de baccalauréat. Et partir de questions philosophiques est un point de départ qui me semble parfaitement légitime et qui marche en vérité très bien.
Et juste un mot d'ailleurs, Nicolas Franck, parce que Pierre Mathieu évoquait différentes associations, certaines étant pour que la philosophie ne soit enseignée qu'en terminale et d'autres dès la maternelle. S'agissant de l'APEP, l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public que vous présidez, vous, c'est quoi votre point de vue? C'est la terminale? Un point,
non,
c'est
une
tout.
Préparation en première, c'est très bien. On peut très bien commencer à faire de la philosophie en première. C'est pas du tout... nous n'avons aucune objection à cela. Après, se posent les problèmes qu'évoquait Pierre Mathieu tout à l'heure à propos de l'enseignement professionnel. Et il y a d'autres disciplines et il s'agit de savoir à qui on prend des heures, puisque il faut bien des heures et surtout pour commencer à faire de la philosophie, un certain volume d'heures. J'ajoute juste une chose sur la spécialité humanité, littérature, philosophie. C'est que ce que nous contestons aussi, c'est cette association exclusive avec les lettres. Je veux dire, il y a un ancrage de la philosophie dans bien d'autres champs disciplinaires. La philosophie aujourd'hui existe... je veux dire, il y a une recherche philosophique liée aux sciences juridiques, aux sciences politiques. Pierre Mathieu en sait quelque chose. À la linguistique, il y a une école d'épistémologie française qui est extrêmement riche. On ne voit pas pourquoi on serait réduit à cette association avec les lettres. Ce qui conduit d'une certaine façon à reconduire ce qui existait déjà et qui a été beaucoup critiqué dans la terminale L.
Ce qui conduit aussi à s'interroger sur finalement ce que c'est que l'enseignement de la philosophie. Est-ce qu'on apprend les philosophes? Est-ce qu'on apprend les grandes doctrines de la philosophie? Ou bien est-ce qu'on apprend à philosopher soi-même? Et auquel cas, Marilyn Maeso, est-ce que la philosophie, même si elle n'apparaît pas de manière officielle dans les programmes, est-ce qu'elle n'est pas présente tout au long du cursus scolaire? D'abord parce qu'il y a, notamment dans le primaire, par exemple, c'est à l'initiative, je crois, des professeurs, mais des ateliers de discussion philosophique, même si je crois que l'inspection générale de l'éducation nationale préfère qu'on ne parle pas, justement, qu'on n'utilise pas ce terme-là, mais même quand on fait des maths, quand on raisonne, est-ce qu'on ne philosophe pas?
Après, tout dépend de ce qu'on appelle philosopher, et là-dessus, il n'y a pas un consensus entre les professeurs de philosophie et les philosophes. Même, on a plutôt tendance à s'écharper, généralement, quand on cherche à donner la définition de ce qui fait le philosophe. De mon point de vue, je pense que la philosophie est une discipline qui est suffisamment riche pour être justement, enfin, pour avoir différentes facettes. Il est vrai que ce qu'on fait en terminale, en raison du programme, du nombre de notions actuellement, du nombre d'auteurs aussi qu'on doit avoir, du nombre de repères conceptuels qu'on a enseignés, on a un dilemme. Tous les professeurs sont ce cas-là, entre vouloir d'un côté enseigner effectivement le bagage philosophique, le bagage de culture philosophique nécessaire et indiqué par le programme, et d'autre part vouloir vraiment axer l'enseignement sur l'apprentissage du raisonnement, de la réflexion, du questionnement philosophique qui est aussi fondamental.
Et ce bagage, est-ce qu'il n'est pas pris en compte justement par l'enseignement en mathématiques, en français, c'est-à-dire tout l'enseignement qui précède l'arrivée officielle de la philo en classe de terminale?
Pas totalement sûr. Ayant cette année les trois sections générales S, ES et L, je me rends compte par exemple avec les ES et avec les S, très souvent quand je leur parle de questionnement autour des mathématiques, quand je questionne la notion de fondement par exemple, je me rends compte qu'ils n'ont aucune notion d'histoire des mathématiques. Quand je parle de crise des mathématiques, quand je parle de géométrie non euclidienne, d'espace non euclidien, ça ne leur dit rien. En fait, on se rend compte que très souvent, les matières scientifiques, on leur enseigne en fait l'état de la science, on leur enseigne la dernière version, les dernières théories, les derniers éléments qui sont d'actualité, mais ils n'ont pas une visibilité sur les questionnements, sur le processus par essai-erreur qui a mené aux théories actuelles. Et je trouve que ça, d'un point de vue philosophique, c'est quelque chose qui manque, et c'est quelque chose que la philosophie leur apporte en propre.
Nicolas Franck, j'ai vu que l'APEP demandait que les professeurs de philo soient associés à la formation des collègues qui se chargent des discussions à visée philosophique dans le premier degré et au collège. Est-ce que ça signifie que pour vous, pour votre organisation, seuls les profs de philo sont à même de faire de la philo?
Est-ce que vous auriez posé cette question à un prof de maths?
Je ne sais pas. Mais je ne sais pas
si la... Moi, je pense que vous ne l'auriez pas posé. Je pense que vous ne l'auriez pas posé, mais...
Oui, je ne l'aurais sans doute pas posé, parce que moi, dans mon esprit, il y a déjà une transdisciplinarité dans les philosophies qui n'existe peut-être pas dans les mathématiques.
Oui, je crois qu'il y a, sinon sur une définition de la philosophie, mais du moins sur un des objectifs qu'on doit assigner à l'enseignement de la philosophie, quelque chose sur quoi on peut assez facilement s'accorder. Il s'agit de rendre les élèves qui sont en train de devenir des citoyens des sujets responsables de leurs paroles. Et je crois que c'est la leçon de toute la philosophie. Même les philosophies critiques du sujet sont là pour justement nous inviter à dépasser les asservissements cachés, les manipulations, les illusions.
Mais des sujets responsables de leur parole, est-ce que ça n'est pas une des missions qui est dévolue à tous les enseignants et pas seulement aux enseignants de philosophie?
Oui, mais je crois que les enseignants de philosophie sont mieux préparés à cela, parce que leur objet, c'est la conceptualisation à partir, et c'est le sens d'un programme de notions les plus communes que nous connaissons tous, à partir des expériences des élèves, à partir de leur représentation, à partir des usages qu'ils font du langage. Voilà, étudier le désir, l'état, la liberté, la vérité, bref, ce que nous faisons en terminale, c'est justement ce qui permet de revenir sur un certain nombre d'idées préconçues. Ce n'est pas du tout la même chose que de construire des concepts comme on fait en mathématiques ou en biologie, où il y a évidemment des concepts qui sont utilisés, mais qui n'engagent pas d'une certaine façon chacun à revenir sur soi.
Et d'ailleurs, à propos de l'enseignement précoce, disons, de la philosophie, je renvoie à un ouvrage qui vient de sortir, Pourquoi et comment philosopher avec des enfants, c'est publié chez Attier, c'est sous la direction d'Olivier Blond-Rivouski, avec notamment Edwige Chirotter. On parle de l'enseignement précoce, et qu'est-ce qui se passe après le bac? En quelques mots, Marine Maizeau, puisque je disais tout à l'heure que vous avez enseigné pendant un an à l'université de Nice, est-ce que la philosophie est suffisamment bien positionnée aujourd'hui dans le secondaire pour être ensuite prise en compte par les élèves dans leur choix d'études supérieures?
Déjà, à l'heure actuelle, on se rend compte que, mis à part pour les grandes facs parisiennes comme Paris 4, où j'ai aussi enseigné, dans les facs de province, en tout cas dans un certain nombre de facs de province, les effectifs en philosophie ne sont pas toujours excellents. À Nice, j'avais des tout petits groupes, parfois 6 ou 8 élèves, 8 étudiants en l'occurrence. Et à cause de ça, il y a eu des cours qui parfois ont été fermés, parce que manque d'effectifs. Je me dis qu'avec la réforme qui est en cours, en tout cas c'est une inquiétude que j'ai, si en raison du système avec un tronc commun à 4 heures et puis des options dont il aura fallu décider à la fin de l'année de première, c'est-à-dire avant que les élèves aient vraiment eu un enseignement de philosophie proprement dit, le risque c'est que peu d'élèves soient attirés, en tout cas prennent le risque de prendre cette option pour le baccalauréat, et du coup se retrouvent à la fin de l'année de terminale à avoir fait trop peu de philosophie pour pouvoir s'engager dans la filière universitaire.
Eh bien, merci beaucoup. On n'aura pas eu 3 heures, mais 40 minutes pour discuter de cette question. Merci Marilyn Maezo, merci Pierre Mathieu, ainsi qu'aux équipes de France Bleu à Lille. Et merci Nicolas
merci
Franck.
Merci,
voilà, si vous vous intéressez merci. À la philosophie, évidemment, il faut écouter tous les jours, du lundi au vendredi, Les Chemins de la Philo. C'est de 10h à 11h et c'est avec Adèle Van Rett. Voilà, merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Alice Seyed.